familier de François, le thème de la paix est aussi un thème bien connu. Je pense que je risque pas de vous apprendre grand-chose là-dessus, simplement d'ordonner peut-être votre savoir. Donc François d'Assise, il est du XIIIe siècle, donc il est né en 1182, il est mort en 1226, c'est pour que vous situiez bien son temps. Il a vécu dans un siècle de violence, et même de grande violence. C'est le temps des conflits majeurs entre l'empereur du Saint-Empire, empire romano-germanique, et puis le pape. Vous savez qu'à l'époque, l'Italie, patrie de Saint-François, est divisée de façon très, très imbriquée entre territoires pontificaux et territoires de l'Empire. Si bien qu'il y a de nombreuses occasions de lutte, même à lutte armée, entre le pape et l'empereur. Le pape ne faisait pas toujours la guerre lui-même, mais en fait, il avait des armées à son service. C'est aussi le temps des guerres féodales. Nous sommes à la fin de la féodalité, mais les seigneurs qui ont le pouvoir sur certains territoires se battent entre eux, bien souvent parce qu'ils appartiennent soit au pape, soit à l'empereur, pour, au moins pour l'Italie, mais ça vaut aussi pour les royaumes de France, d'Espagne et d'Angleterre. C'est le temps aussi des croisades. Saint François lui-même a participé, tout au moins s'est trouvé au milieu des croisés. C'est le temps de l'émancipation des communes. Et ça se fait parfois par la force, c'est-à-dire que les habitants d'une petite ville veulent secouer le pouvoir des seigneurs à qui appartient le territoire et la ville, et veulent gouverner eux-mêmes leurs intérêts. Ce sont souvent les marchands qui, pour des raisons financières, préfèrent ne pas avoir de compte à rendre et d'impôts à payer aux grands seigneurs. Et l'émancipation des communes se fait souvent par la force. C'est aussi la rivalité des cités entre elles. La plupart des cités vont être obligées d'avoir une armée à leur service, des milices, milices communales souvent. Et donc les habitants sont habitués à prendre les armes pour des petites guérillas. Ça ne dure pas très longtemps en général, mais ça avait quand même quelques morts et quelques prisonniers. François a été mêlé plus ou moins à toutes ces querelles. Et dès sa jeunesse, il a fait l'expérience de la guerre. Et même de la captivité. Il a passé 18 mois dans la prison de Pérouse, lorsque la ville de Pérouse est en guerre contre la ville d'Assise. Assise était ville d'empire, Pérouse ville pontificale. Et même il y a chez lui un certain attrait pour les armes. Il a désiré la vie militaire, pas uniquement pour faire la guerre, mais aussi pour trouver une occasion de promotion sociale, passer du statut de bourgeois au statut de chevalier. C'était la possibilité pour les non-nobles de devenir chevaliers, c'était de gagner le titre sur le champ de bataille. Eh bien, cependant, sa conversion à l'évangile va l'amener à faire une véritable conversion aussi dans ses relations avec autrui, à réviser ses relations à autrui. Ce qui a déclenché cette conversion, c'est la rencontre du lépreux. C'est lui-même qui le rapporte dans son testament. À ce fils de marchand, riche et admiré, qui rêvait de réussite et de promotion sociale et de gloire militaire, voilà qu'il va se trouver confronté à la misère et la déchéance humaine, ce qui jusque-là lui était insupportable, et spécialement la vue des lépreux. Je cite, « Le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, je leur fis miséricorde, et au retour, ce qui m'avait semblé si amer, c'était changé pour moi en douceur pour l'âme et le corps. Après quoi, j'attendis peu et je sortis du siècle, c'est-à-dire j'entrais dans la vie religieuse. » Cette conversion au Christ et aux valeurs de l'Évangile lui firent méditer le serment sur la montagne et sur les béatitudes qui l'inaugurent. La pauvreté fut pour lui la première urgence, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et François avait déjà expérimenté la richesse et puis on peut dire les conséquences sociales de la richesse qui faisait des uns des riches et des autres des pauvres. Ses biographes nous disent qu'il était miséricordieux envers les pauvres et que même dans son état de marchand, il n'hésitait pas à faire l'aumône. Mais autre chose est de faire l'aumône, autre chose est de vivre parmi les pauvres. Dans les béatitudes, il y a aussi celle des pacifiques, ceux qui font la paix, les faiseurs de paix, qui seront appelés fils de Dieu. La volonté de faire la paix découle, pour saint François, de son expérience de la richesse et de la pauvreté, mais aussi de son expérience nouvelle de la paternité de Dieu. Vous savez qu'après sa conversion, en conflit avec son père, il renonce en quelque sorte à sa filiation naturelle pour se mettre totalement en dépendance du Père des cieux. Désormais, je ne dirai plus Pierre Bernardonnet, mon père, mais notre Père qui est aux cieux. Quand ses compagnons vinrent le partager sa vie, François leur proposa tout naturellement de vivre comme des frères, confiant dans la bonté du Père, se comportant entre eux et avec les autres comme des frères issus d'un même Père, d'un même Créateur. Si bien qu'il va peu à peu étendre son sens de la fraternité à une fraternité qu'on peut qualifier d'universelle, c'est-à-dire qui s'étend à tous les hommes et qui ne s'arrête à aucune condition, ni condition sociale, ni condition de richesse ou de pauvreté, ni condition d'innocence ou de culpabilité. Il estime que cette fraternité a été voulue par Dieu lui-même, puisqu'il a créé tous les hommes à son image, à sa ressemblance, comme les frères d'une même famille. Et il va rapporter ce sens de la fraternité à l'histoire de Jésus-Christ, qui s'est fait homme parmi les hommes, afin de les sauver tous. Cette idée que Dieu sauve tous les hommes, sans en accepter aucun, est pour François le signe d'une volonté de fraternité universelle. Cette vie fraternelle qui doit d'abord être vécue au sein de la fraternité franciscaine, les frères doivent, dit-il, se conduire entre eux comme les frères d'une même famille. Ainsi, nous dit Thomas de Celano, un de ses biographes, il voulait que règne l'union la plus grande entre les frères grands et petits, savants et simples, pour qu'ils communient à la même fraternelle affection. Il voulait que la puissance de l'amour rapproche ceux que séparaient les distances de la vie. Donc c'est la citation de Thomas de Celano. Et dans la première règle, c'est son texte lui-même, il écrit « Aucun frère n'aura sur ses compagnons aucun pouvoir de domination. Comme dit le Seigneur dans l'Évangile, les princes des nations leur commandent et les grands des peuples exercent leur pouvoir. Il n'en sera pas de même entre les frères. On ne donnera à aucun frère le titre de prieur, mais à tous indistinctement celui de frère mineur, et ils se laveront les pieds les uns aux autres. » Vous voyez là, je vais parler un peu plus loin de la paix en elle-même, mais c'est d'abord la fraternité qui engendre la paix. Il n'y a pas de paix sans reconnaissance des hommes comme des frères à aimer. Tous les hommes, dit-il, doivent être abordés comme des frères, riches ou pauvres, amis ou ennemis, bienfaiteurs ou bandits, bandits des grands chemins, chrétiens ou infidèles. C'est dans la première règle, au chapitre 7, verset 13. Même par rapport aux prêtres, pêcheurs. À l'époque de François, il y a un certain nombre de gens qu'on appelait des hérétiques, c'est-à-dire qui mettaient en cause le pouvoir sacramentel des prêtres lorsqu'ils avaient péché gravement. Et François va réagir contre cela en rappelant que ce qui fait la dignité du prêtre, ce n'est pas uniquement sa personne, mais c'est sa mission et c'est le presbytérat qu'il a reçu du Christ. C'est en réaction aussi contre certains révolutionnaires de son temps, comme par exemple les disciples d'Arnaud de Brescia, qui n'hésitent pas à saccager les presbytères et puis à dénoncer les prêtres trop riches. Ben, François va réagir contre cela parce que, dit-il, il faut avoir la miséricorde pour tous. Donc même par rapport aux prêtres pécheurs souvent vilipendés, François quant à lui adopte une attitude de compassion et de miséricorde. Et de plus, il conserve la foi en l'action du Christ, sacramentalisée par le ministère des prêtres. Les récits de la vie de François abondent sur ce thème de rencontre bienveillance de quiconque. Cette fraternité est sans exclusive, elle est vérifiée concrètement dans la rencontre des infidèles, que l'on doit aborder non pas comme des ennemis, mais comme des frères, avec courtoisie et respect. Ça en rappelle le titre du livre du père Guénolé-Jesset, racontant les relations de François avec l'islam. Il appelle ça la courtoisie, François, la rencontre de courtoisie. La fraternité universelle dont il rêve s'accompagne du désir d'apporter la paix à tous. Et c'est bien le sens du salut qu'il a appris à ses frères. Il faut employer envers toute personne rencontrée sur son chemin ce salut de bienveillance, que le Seigneur te donne sa paix. Et vous savez que la devise franciscaine que l'on voit partout affichée assise, c'est Pax et Bonum, la paix et le bien. Quand on sait que Bonum, pour François, est le nom de Dieu, la relation entre les deux est évidente. Dieu, c'est le Dieu de paix. Pax et Bonum. Je cite ici encore son biographe, Thomas de Celano. Pour saluer, le Seigneur m'a révélé que nous devions dire que le Seigneur te donne sa paix. Cette paix, il la souhaitait toujours avec conviction aux hommes et aux femmes et à tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Et il ajoutait dans son enseignement, là je cite l'anonyme de Pérouse, « cette paix que vos bouches proclament, il vous faut d'abord et bien davantage encore l'avoir dans le cœur. Ainsi vous ne serez pas, pour personne, occasion de rancœur ou de chute. Tout au contraire, votre paix, votre délicatesse ramèneront la paix et la tolérance entre tous les hommes, car c'est là notre vocation. » Très intéressant. L'anonyme de Pérouse, c'était écrit par un des compagnons de François, hein, quelqu'un de proche des compagnons de François, un certain Jean d'Assise. C'est donc un texte qui est très proche de la première expérience. Hein. Donc, François demande à ses frères d'annoncer la paix, d'être des faiseurs de paix, et de considérer que cela vient de la part de Dieu. Remarquez dans le texte de l'Évangile que François a choisi pour idéal apostolique de la fraternité, c'est-à-dire l'Évangile d'envoi en mission des disciples, le Seigneur dit aux apôtres, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix repose sur cette maison. Et s'il n'y a personne qui en est digne, cette paix reviendra sur vous. Remarquons que pour François, la paix n'est pas une utopie, ni un idéalisme, mais bien une réalité quotidienne. Faire la paix pour lui, ça se vit chaque jour. Et même François y voit l'une des conséquences du choix de la pauvreté évangélique. Pauvreté et paix sont conjugués. En effet, il répond à l'évêque d'Assise, qui s'inquiétait du radicalisme de la pauvreté des frères. Comment allez-vous vivre, mes frères, si vous ne possédez rien? À l'époque, les monastères avaient des grands biens, les faisaient fructifier. Voyez, Monseigneur, si nous avions des propriétés, il nous faudrait aussi des armes pour les défendre, car elles sont la source d'interminables conflits et de procès. Et tout cela n'est qu'entrave à l'amour de Dieu et du prochain. Voilà pourquoi nous ne voulons d'aucun bien matériel en ce monde. C'est encore dans l'anonyme de Pérouse. Donc François se fait l'annonciateur de la paix et d'une certaine façon le prédicateur de la paix. Il ne s'est pas contenté d'inviter les frères à garder la paix entre eux, mais il va au-devant des hommes pour leur demander de faire la paix, avec plus ou moins de succès, bien sûr, dans les conflits de son époque. En 1217, donc, il part en Orient, au temps de la cinquième croisade, et se retrouve à Damiette dans le camp des croisés. On discute toujours pour savoir pour quelle raison il est parti. Pour Thomas de Celano, pour Bonaventure, c'était d'une certaine façon pour trouver le martyr, mais aussi pour aller manifester aux infidèles qu'ils méritaient d'entendre l'Évangile, voyez, en tant que destinés à devenir des frères. Il ne reste pas parmi les croisés. Il franchit les lignes et se porte en pleine guerre, en pays musulman, parmi les ennemis des Occidentaux, et là, un peu miraculeusement, il parvient à rencontrer le sultan. Un sultan qui les est connu, hein, Melek El Kamel, qui était un homme humaniste, qui n'avait pas tellement envie de faire la guerre, mais enfin, il s'y trouvait contraint par sa situation de possesseur de terrain revendiqué par les croisés. Cette rencontre avec le sultan est un geste significatif de paix, en pleine violence guerrière, alors que les esprits semblaient s'y opposer à une telle démarche. Il faut se souvenir que peu de temps auparavant, c'est-à-dire au XIIe siècle, vers 1150, le doux Bernard de Clairvaux, qu'on appelle le docteur Melliflu, celui dont coule le miel, hein, prédicateur de la croisade cependant, conseiller spirituel de la fondation des Templiers, écrivait à ceux-ci que leur milice devait obtenir, au besoin par les armes, la conversion des musulmans. Et s'ils refusent de se convertir, alors il faudra les exterminer. Il y a plusieurs lettres de Saint Bernard, et en particulier une lettre envoyée aux frères des Templiers, frères du Temple, vous voyez, qui leur donne des consignes guerrières. Et ils sont là pour ça. Ils ont été fondés, si possible, pour sauver les gens, et si impossible, pour les guerroyer. Pour François, au contraire, le sultan, ce n'est pas d'abord un ennemi, mais un frère qui a droit à entendre les paroles de l'Évangile. Hein, que les frères le sachent, si le Seigneur nous a envoyés en ce monde, c'est pour que nous fassions connaître à tous qu'il n'y a de tout puissant que lui. Vous voyez, tous les hommes sont destinataires de la parole de François. Sans doute, il nous est difficile aujourd'hui de lire à travers ces textes, qui sont surtout des panégyriques, quel fut le résultat de sa prédication. Si on fallait s'en tenir au Fioretti, on verrait que le sultan fut converti dans son cœur et qu'il attendait l'occasion sur son lit de mort pour recevoir la visite de François, qui bien sûr lui est apparu pour l'envoyer au ciel. Mais ça, ce sont les Fioretti. Dans les textes historiques plus sérieux, disons, non pas que les Fioretti ne soient pas sérieuses, mais elles ne poursuivent pas le but de nous renseigner sur l'histoire. Alors, on reste très dubitatif sur le résultat de la prédication de François. En croire les différentes sources, et surtout le récit de Bonaventure, qui dit tenir ses renseignements d'un certain frère illuminé, le compagnon de François en cette aventure, le sultan non seulement aurait reçu François avec quelques égards, mais aurait admiré son courage et sa courtoisie. Il aurait exprimé un désir de foi, une possible conversion intérieure, mais cela n'est guère vraisemblable. Ce qui importe en tout cas, c'est le changement d'attitude qui en est résulté parmi les chrétiens. À commencer par les frères mineurs, persuadés désormais qu'il valait mieux évangéliser que combattre par les armes. Nous en avons le témoignage par la première règle, qui date de 1221, dans laquelle François donne des consignes très, très précises aux frères qui sont appelés à aller chez les sarrasins, c'est-à-dire les musulmans, et les autres infidèles, où il leur conseille de ne pas faire de querelles. Nous connaissons d'autres interventions de François pour rétablir la paix, en particulier dans les villes italiennes en proie à des conflits sociaux entre riches et pauvres, entre ce qu'on appelait à l'époque les minoresses et les majoresses, les petits et les grands, les créanciers et les débiteurs. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, ce fut l'une des œuvres principales des frères mendiants, mineurs et prêcheurs, d'organiser des rencontres de conciliation entre les différentes classes sociales des villes italiennes. Il fallait même obtenir des cités et des communes qu'ils concluent entre eux des pactes de modération réciproque, voire de remise de dettes pour les plus pauvres. La plus célèbre de ces interventions fut celle d'Antoine de Padoue, qui, en 1231, 5 ans après la mort de François, obtint du podestat de la ville de Padoue une charte qui interdisait la contrainte par corps pour raison de dette. Donc les débiteurs insolvables ne sont plus envoyés en prison, mais ils ont l'obligation, bien sûr, de payer leurs dettes, mais on ne peut plus les contraindre par corps. Nous possédons encore ce texte, il est copié dans les archives de la ville de Padoue. François lui-même intervint en ce sens dans les villes d'Assise et d'Arezzo, au dire de ses compagnons. Thomas de Celano, dans le mémorial, nous rapporte un épisode concernant cette ville d'Arezzo, d'où François chassa les démons de la discorde. Ses premiers biographes remarquent que partout où il passait, les conflits s'éteignaient, les gens se reconnaissaient comme des frères. Et là, nous avons un témoignage très important, parce qu'il ne vient pas d'un franciscain, mais d'un prêtre séculier, qui se rappelait qu'étant étudiant à Bologne, il avait entendu François prêcher. Il parla si bien, avec tant de solide clarté, que les développements de cet illettré plongèrent dans une admiration sans borne même les savants de son auditoire. Ses discours pourtant ne relevaient pas du genre de la grande éloquence. C'était plutôt des harangues. En réalité, il parla pendant tout son discours du devoir d'éteindre les haines et de conclure un nouveau traité de paix. Un peu plus loin, le même Thomas de Spalato ajoute « Dieu conféra tant de pouvoir à ses paroles qu'elles ramenèrent la paix dans mains de familles seigneuriales déchirées jusque-là par de vieilles querelles, de vieilles haines, furieux jusqu'à l'assassinat. » Donc, on faisait la vendetta dans ces pays-là. C'est ce pouvoir quasi miraculeux d'apaiser les querelles et de ramener la paix qui frappait les foules et aussi sa réputation d'artisan de paix. L'un des derniers actes de la vie de François va bien dans ce sens lorsqu'il réconcilia l'évêque et le podestat, c'est-à-dire le maire d'Assise. Tous deux étaient fâchés depuis longtemps par un conflit sans issue. De son lit d'agonie, quelques jours avant sa mort, François ajouta une strophe au cantique des créatures. Il envoya deux de ses compagnons, probablement le frère Pacifique, pour la chanter, cette strophe, aux deux chefs de la cité, qui, par amour de François, se réconcilièrent illico. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, pour ceux qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, par toi, ô Très-Haut, ils seront couronnés. Donc nous chantons toujours cette strophe avant-dernière du Cantique des Créatures. Lorsque le 26 juin 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le sénateur américain Tom Connelly présenta la charte de l'ONU aux représentants des différentes nations qui venaient de faire la guerre. Pour inaugurer cet organisme voué à la paix dans le monde par le dialogue entre les nations et, on peut dire, providentiellement dans la ville San Francisco, ville de Saint-François, fondée au XVIIIe siècle par les missionnaires franciscains. Il souligna, dit-on, cette coïncidence et il évoqua la mémoire du petit pauvre d'Assise en récitant cette prière pour la paix qui n'est pas de François mais qui lui est attribuée pour inviter les hommes à faire enfin la paix après le conflit le plus violent et le plus meurtrier de l'histoire des hommes. Vous pouvez trouver une explication de cela et puis des références dans le petit livre de Christian Renoux, « La prière pour la paix » attribuée à saint François d'Assise. La paix en Dieu, la paix est un don de Dieu. Le péché a introduit dans le monde la racine de tous les conflits entre les créatures, mais surtout il a rompu l'alliance originelle d'Adam avec son Créateur. Conscient de ses fautes, l'homme redoute désormais le châtiment divin, et il se fait une image redoutable, à tort, d'un Dieu qui serait animé par la colère. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, rappelle aux chrétiens que l'amour bienveillant du Père s'est manifesté dans l'envoi de son Fils bien-aimé alors que nous étions encore pécheurs. C'est alors que le Christ est venu. Il n'y a donc plus à redouter de colère divine, mais il convient de vivre désormais dans l'action de grâce pour le pardon obtenu dans la bienveillance divine, signifiée par la passion de Jésus. Dans les récits de la vie de saint François, on nous raconte qu'à un moment de sa vie, il était un petit peu en état dépressif, et il se posait sans cesse la question de son propre salut. Et donc, il en était tellement tourmenté qu'il se croyait damné. Et donc, il lui fut révélé, pendant son sommeil, que non seulement il ne serait pas damné, mais que Dieu l'attendait avec miséricorde. Et à partir de ce moment, il retrouve la joie et la paix du cœur, et il se met à prêcher la miséricorde divine. François contemple sans cesse l'amour de Dieu manifesté par la passion, et qui porte en son cœur la compassion de Jésus pour les pécheurs. Il voudrait que tous les hommes entendent ce message d'espérance. Saint Bonaventure, disciple de François, aspire lui aussi de tout son être à connaître la paix en Dieu. C'est aussi le terme de l'itinéraire de l'âme en Dieu, une de ses principales œuvres mystiques. Lorsqu'étant parvenu à saisir avec François l'amour rédempteur signifié par la croix du Christ, l'âme, dit-il, peut enfin accéder à la contemplation des mystères divins et se reposer en silence dans l'union aux personnes divines. C'est le terme de l'expérience mystique pour Bonaventure, c'est le repos dans la paix de Dieu, là où il n'y a plus besoin de paroles, mais simplement à jouir de la présence. Je vais conclure, et j'emprunte ma conclusion à un article de mon frère Gérard Vuitton, qui avait fait un article sur ce même thème. François d'Assise n'est plus de ce monde, et pourtant, son esprit est plus vivant que jamais. Quand les hommes disent se rapprocher et vivre un peu plus comme des frères, c'est spontanément à François d'Assise qu'il se réfère. Quand le pape Jean-Paul II lance un appel solennel et propose un rassemblement mondial de prières pour la paix, c'est à Assise qu'il convoque les responsables des diverses religions, le 27 octobre 1986. Et pourquoi Assise? Il le disait déjà en 86, le pape Jean-Paul II, « Assise, lieu que la figure séraphique de saint François a transformé en un centre de fraternité universelle. » Pensez aussi à la fondation de la communauté San Egidio, qui a été fondée à Assise, qui est fondée de personnes qui ont comme mystique d'annoncer la paix au monde et qui s'impliquent parfois dans des situations de conflit pour précisément tenter des arbitrages et des rapprochements. Nous disions en commençant, saint François a connu les massacres de la croisade, mais cependant il n'a pas connu les horreurs des deux guerres mondiales. Les conflits du Moyen-Âge ne sont pas à la mesure de nos conflits modernes. Il n'a pas assisté à la chute dramatique des Twin Towers de New York. Qu'aurait-il dit alors? Qu'aurait-il fait? Prêcher encore la fraternité universelle, sans doute, ou tout simplement faire ce qu'ont fait ses frères de là-bas, tel ce franciscain aumônier des pompiers de la ville de New York, frère Michael Judge, qui fut l'une des premières victimes après l'accident, en même temps que des centaines d'autres pompiers. Nous retiendrons pour terminer la confidence du pape François au moment de son élection. Je cite, « En pensant aux pauvres, j'ai pensé à François d'Assise. Puis j'ai pensé aux guerres. Pendant que le scrutin montait, donc qu'il allait l'élire pape, jusqu'à la fin de tous les votes. Et François, c'est l'homme de la paix. Et c'est ainsi que m'est venu le nom de François dans mon cœur. L'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime. Merci de votre attention.